Cécile Clavier, bonjour.
Bonjour.
Cécile Clavier, vous êtes surdouée et vous avez un parcours atypique. Alors, j'allais dire malheureusement, mais non, heureusement, comme beaucoup de surdoués.
Oui, en effet. Malheureusement ou heureusement, c'est qu'une question de point de vue finalement. Donc ça a été malheureux un certain temps et puis maintenant je vois le bon côté des choses.
Alors, Cécile Clavier, vous avez été testée à quel âge? Je crois que c'est récent.
J'ai découvert très récemment, oui, c'est un coach qui m'a accompagnée, qui a mis le doigt sur le sujet et j'ai été confortée par la suite par plusieurs coachs et au potentiel que j'ai rencontré et qui m'ont reconnue dans ce profil-là.
Bien, alors parlons maintenant de votre parcours, un parcours atypique. Vous êtes issu de quel type de formation?
Donc j'ai fait une école de commerce en fait, spécialisée en informatique, télécom, école de management. Et suite à ça, j'ai voulu me diriger vers la communication parce que j'aimais bien l'aspect à la fois créatif qui correspondait à tout ce que j'aimais faire en termes de loisirs et en même temps le côté écoute du client, répondre à son besoin et toute l'intelligence que ça suscitait. En fait, je me suis rendu compte assez vite qu'en agence, c'est beaucoup plus siloté que ça. Donc, j'aurais pas forcément la possibilité d'être à la fois créative, gestionnaire de projet et commerciale. Non seulement il aurait fallu que je choisisse, mais au final, vu l'état du marché, ça a été assez compliqué d'intégrer les agences. Du coup, j'ai plutôt intégré une PME où j'ai eu la possibilité de déployer en fait tous mes talents puisque j'étais la seule responsable au niveau de la communication. Et après 2, 3 ans dans cette entreprise, j'ai commencé à m'ennuyer, donc je suis allée vers du conseil. Ce qui m'a convenu au niveau dynamisme et diversité des missions, des centres d'intérêt, mais qui a été assez difficile en termes de rythme et de relationnel. Et finalement, c'est à partir de là que je suis devenue en fait indépendante. Donc depuis un peu plus de 5 ans maintenant, ben, je travaille en fait en portage salarial. Sur d'abord plutôt du digital parce que c'était ce que je connaissais le mieux, et depuis 2 ans sur de la formation et du coaching avec des partenaires en fait.
Cécile, nous allons parler aujourd'hui donc de trouver sa vocation. Alors, trouver sa vocation pour un haut potentiel et pour une personne, on va dire, lambda, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, a beaucoup d'importance, qui révèle parfois un challenge. Pour les hauts potentiels, trouver sa vocation, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, c'est vrai que, alors en plus, comme j'ai expérimenté ce chemin-là, je connais assez bien. Et puis ensuite, je me suis formée au coaching, donc ça me permet de rallier à la fois tout ce qui est problématique du haut potentiel et tout ce qui est coaching et savoir comment ça aide. En fait, il y a plusieurs étapes, et ça d'ailleurs, c'est pas que pour les hauts potentiels. Trouver sa vocation, c'est déjà prendre le temps de se connaître, ralentir, pour trouver ce qui fait sens pour soi, ce qui est une source de motivation. On va chercher dans ses passions, dans ce qui nous procure de la joie, dans son enfance, parce que des fois, devenant adulte, on a mis un certain nombre de choses de côté, on commence à être un petit peu biaisé avec le faux self qui fait qu'on essaye beaucoup plus de s'adapter plutôt que de prendre soin de soi. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment trouver une cohérence dans son vécu et dans ce qu'on aime, et à partir de là, avoir un point central, quelque chose qui fait sens, à partir duquel on peut commencer à déterminer des objectifs en termes, par exemple, donc déjà de sens, d'activité, mais aussi de mode de vie et d'environnement. Parce que trouver un métier, une vocation, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on va faire, c'est aussi avec qui, dans quel environnement, à quel rythme. Et donc, c'est un ensemble de choses beaucoup plus large, en fait. Et pour les hauts potentiels, qu'est-ce qui va rentrer en jeu? Ben, ça va être le dynamisme de l'activité, qu'on soit en capacité d'utiliser notre intelligence et d'exprimer la créativité. Mais c'est aussi tout ce qui est valeur, donc le relationnel avec les autres, l'empathie, le fait de pouvoir travailler en restant authentique. Donc l'idée c'est d'aller explorer tout ça aussi. Donc une fois qu'on a trouvé ce qui fait sens, donc c'est vraiment de se connaître soi. Donc quelles sont ses valeurs? Parce que vivre en fonction de ses valeurs, c'est ce qui va nourrir un sentiment d'accomplissement. Ça va être reconnaître à la fois ses besoins, ses ressources, s'aimer tel qu'on est en fait, avec ses forces et aussi, alors moi j'appelle pas ça faiblesse, mais donc de ce qui peut nous caractériser et parfois être confrontant pour les gens qui sont différents. Donc il faut vraiment être conscient de tout ça pour faire en sorte qu'on puisse en faire justement une force plutôt qu'une difficulté. Donc par exemple tout ce qui est hypersensibilité, hyperémotivité, moi c'est quelque chose dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui que j'avais du mal à faire valoir et c'est pour ça que maintenant j'ai mis au cœur de mon métier dans le coaching et la formation, ça devient vraiment une force. Ça l'était déjà dans la communication sur les aspects créatifs, ça l'était beaucoup moins dans le conseil quand il s'agissait des turons en fait. Donc c'est vraiment arriver à jongler avec toutes nos compétences qui sont finalement des forces dans certains milieux et pas forcément dans d'autres. Après, c'est aussi effectivement s'aimer dans son humanité, donc se donner le droit en fait d'essayer, le droit à l'erreur, se respecter, s'aimer en fait malgré tout, respecter son rythme entre les rêveries, le besoin d'espace mental pour toutes les questions qu'on se pose, toutes les envies qu'on a, et puis le besoin d'activité pour créer, pour résoudre des problèmes, pour apprendre des nouvelles choses. On a quand même un besoin de nourrir son cerveau en permanence et ça, c'est selon les postes, c'est pas toujours possible non plus. Donc essayer de trouver un espace où c'est possible de le faire. Et puis c'est savoir, en termes de besoins, c'est aussi savoir s'affirmer, savoir dire non pour pas se laisser envahir finalement par toutes les émotions et les besoins des autres. Donc j'ai parlé des valeurs, des ressources, des besoins. Donc ça c'est vraiment le socle de l'estime de soi. Et puis il y a tout ce qui est dépasser ses limites en fait. C'est que ce qui a tendance à nous miner aussi, c'est justement ce perfectionnisme, l'hyper-lucidité, l'hyper-conscience. Et l'idée donc c'est d'arriver à apprivoiser cette différence, à s'autoriser l'imperfection, à lâcher prise. Donc pour ça, les astuces, c'est vraiment d'essayer déjà d'en prendre conscience de ce qu'on se fait subir soi-même et de transformer son langage intérieur pour devenir un peu son meilleur ami en fait. Se parler avec respect, amitié, valider ses réussites, quitte à faire un journal de bord avec tout ce qu'on a déjà réussi à faire. Se valoriser en termes d'image de soi, cultiver vraiment l'amour de soi. Et puis s'autoriser finalement la richesse qu'on a en fait. Le fait d'être multipotentiel. Moi, je me rappelle une amie qui a cherché aussi sa vocation pendant un moment et qui, suite à un coaching, a découvert qu'elle avait le droit de faire plusieurs activités parce qu'elle voulait à la fois être peintre, mettre la cuisine au cœur de son activité et être thérapeute. Et donc, elle est devenue art-thérapeute, elle donne des cours de cuisine et elle expose dans des galeries. Mais c'est vrai que dans une société où tout est mis en silo, être transverse, en fait, on se rend pas compte que oui, c'est possible. Mais ça nécessite effectivement de pas forcément rentrer dans les cases que les autres ont construites et de créer la sienne, en fait. Donc, quitte à inventer son propre nom de métier ou sa propre structure, ou en tout cas, à affirmer ses envies-là, vis-à-vis des autres, peut-être même en entreprise. Il y a des entreprises qui sont à même de l'entendre, notamment les petites structures qui ont besoin de cette richesse. Mais à un moment donné, il faut être capable aussi d'être conscient qu'on est tout ça et de pouvoir l'exprimer aux autres. Et après, il y a tout l'aspect émotionnel aussi à réussir à gérer. Là, le coaching peut aussi beaucoup aider parce que finalement, les émotions, c'est basé sur l'accumulation d'un vécu. Donc à un moment donné, il va falloir le décharger. Mais il y a aussi tout ce qui est anticipation en termes de peur et de contraintes qu'on se fixe à nous-mêmes. Et donc tout ça, c'est des croyances dont on peut prendre conscience grâce à une personne extérieure qui va mettre le doigt dessus et qui va nous aider à trouver des solutions par rapport à ça, parce que ça ne suffit pas de fermer les yeux, mais au contraire d'accepter ces émotions et leurs messages pour en faire des alliés et en faire finalement une force là aussi. Et du coup, une fois qu'on est fort de tout ça, de cette connaissance de soi, qu'on est prêt à dépasser ses limites, et ben là, c'est vraiment aller expérimenter, parce que c'est l'expérimentation qui nous confronte à la réalité et qui nous fait sortir un peu de tout ce qui est conceptuel. Donc l'expérimentation, ça va permettre d'apprendre et d'acquérir de nouvelles ressources et de nouvelles expériences. Ça va permettre d'exprimer une plus grande diversité encore de comportements, de mieux s'adapter au fur et à mesure aux situations qu'on rencontre, parce que finalement, à chaque expérience, l'idée, c'est d'en tirer des leçons et du coup, de faire que la suivante se passe encore mieux. Et puis, ça permet aussi de défaire des sensations d'inconfort, parce que tout ce qui est peur, peur de soi, peur du rejet, isolement, c'est finalement en allant vers les autres et en étant capable de s'affirmer qu'on va pouvoir dépasser ces étapes-là et d'ancrer en fait les transformations bénéfiques qu'on va rencontrer au fur et à mesure, de les ancrer intérieurement, et ça va vraiment nous faire avancer étape par étape pour atteindre l'objectif de la vie qui nous convient finalement.
Cécile, maintenant parlons un peu de l'entreprise, du travail, difficultés dans les entreprises aujourd'hui, c'est une réalité pour les HP ?
Là, je peux parler surtout au regard de mon expérience et de quelques HP que j'ai pu rencontrer autour de moi. C'est vrai qu'on a un fonctionnement finalement qui est différent de l'entreprise telle qu'elle est construite actuellement. Comme je parlais tout à l'heure du fait que tout est organisé en silo, qu'il y a quelque part des cases qui sont créées, donc ce qui nous convient en général pas forcément. Et puis même finalement, les entreprises, c'est quand même la plupart du temps des structures hiérarchiques avec un management qui est des fois plus dans l'autorité que dans le sens, alors que les hauts potentiels ont un fort besoin de sens, donc ça peut créer des confrontations. C'est aussi une confrontation parfois sur les valeurs, parce que dans l'entreprise, il y a des enjeux politiques et des enjeux de pouvoir qui sont pas forcément, qui reconnaissent pas forcément le travail, qui reconnaissent pas forcément les relations humaines. C'est des enjeux d'image aussi. Donc ça nous confronte vraiment à nos valeurs, à notre rythme aussi, puisque les notions de productivité sont très fortes également, et ça nous confronte souvent à tout ce qui est manque de confiance et sentiment d'illégitimité. Donc à partir de là, oui, c'est des structures qui sont pas toujours adaptées à l'environnement qu'on rechercherait et aux valeurs qui nous portent. Donc bon, c'est évidemment pas vrai pour toutes les entreprises, mais en tout cas, c'est vraiment un chemin d'arriver à trouver l'espace qui nous convienne au-delà du poste, en fait. Parce qu'on peut très bien s'épanouir dans un poste qui est assez varié, mais pour autant, si les relations humaines autour sont difficiles, politisées, si on n'a pas l'espace nécessaire pour aller de l'avant, se développer, ça peut vite devenir difficile, ouais.
Donc une expérience à la fois, je veux dire, théorique, mais aussi bien de terrain que vous semblez posséder.
Oui, en effet. De par et mon expérience et le fait que je suis coach à présent, effectivement, j'ai cette vision globale de ce que peuvent être les difficultés du haut potentiel en entreprise et surtout comment s'en sortir.
Société idéale pour le HP, quelle pourrait-elle être ?
De ce que j'ai pu voir de ceux qui arrivent à s'épanouir, c'est qu'en général, effectivement, ils ont trouvé un espace qui leur convient, alors souvent en créant leur activité ou leur entreprise, parce que créer son activité, c'est pas forcément créer sa structure, hein, ça peut être en interne ou ça peut être comme moi en portage salarial avec des partenaires. Mais en tout cas, ce qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment déployer cette intelligence et cette créativité, et c'est là où en fait le potentiel est exprimé et l'épanouissement est présent en fait.
Un dernier mot peut-être pour les HP qui sont justement en demande de coach, coaching, à qui s'adresser, comment choisir un coach?
Alors déjà, il faut savoir que le coaching, c'est la réglementation n'est pas tout à fait terminée, donc il y a un certain nombre d'écoles qui sont certifiées, par exemple, d'autres le sont pas, donc tout le monde peut se déclarer coach, mais vérifier du coup qu'il est certifié, ça peut être un plus. Ensuite, il y a des fédérations, des annuaires. Ça peut être par le bouche à oreille aussi, quand quelqu'un s'est fait coacher, s'il a eu un bon retour, en général c'est positif. Le principe du coaching, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un accompagnement vraiment qui part de la personne. C'est pas du conseil, donc selon les professionnels qu'on va rencontrer, si on les trouve un peu trop envahissants, c'est pas normal, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui nous accompagne à trouver nous-mêmes nos ressources et nos solutions. Et puis l'idée, éventuellement, c'est d'en essayer plusieurs, d'arriver vraiment à trouver la personne avec qui on se sent bien, en fait.
Cécile Clavier, en conclusion, peut-être comment vous contacter ?
Oui, alors j'ai un site et un numéro de téléphone, effectivement. Donc le site, c'est activatrice.cileclavier.eu. Et mon numéro de téléphone professionnel, c'est 07 55 62 50 50.
Cécile Clavier, je vous remercie beaucoup.
Ben, merci à vous.